Bonjour Audrey Azoulay.
Bonjour Frédéric Rivière.
Nous sommes le 8 mars et comme tous les ans, c'est aujourd'hui la journée internationale. Alors, on dit des femmes ou la journée des droits des femmes. Elle prend cette année évidemment un relief particulier avec ce vaste mouvement de libération de la parole des femmes qui a suivi l'affaire Weinstein. Ce mouvement, selon vous, est-il une lame de fond qui va s'inscrire dans la durée et qui va vraiment faire changer les choses?
Moi, je le crois. Je crois que c'est un phénomène qui est très important, qui met en évidence des choses que l'on avait sous les yeux, mais qu'on s'était habitué à trouver normales. Donc je pense que c'est un progrès, même si il y a des prises de parole qui sont peut-être parfois excessives. Je pense que sur le fond, c'est une excellente chose. Et pour que ça se transforme en un vrai mouvement de fond durable, il faut que ça concerne tout le monde, c'est-à-dire pas seulement les femmes, aussi les hommes. Je pense que ça les fait réfléchir, eux aussi, puisque beaucoup d'hommes s'interrogent sur le comportement de la gente masculine dans son ensemble. Et puis, il faut aussi que ça se traduise dans des droits, dans des pratiques, dans des normes et sous un regard qui est désormais plus vigilant.
Vous avez évoqué des paroles peut-être excessives. Comment faire, en effet, pour que ce mouvement qui a pris forme autour des hashtags Balance ton porc et MeToo, qui dénonçait parfois d'ailleurs de manière nominative des agressions sexuelles ou des comportements déplacés, comment faire pour que ce mouvement ne devienne pas un mouvement qui présenterait finalement tous les hommes comme des brutes épaisses ou des brutes épaisses potentielles?
Je crois que ça, c'est un vrai danger. C'est-à-dire, si on se met à ranger l'homme du côté de l'animalité, on perd tout, justement.
On la sent un peu, cette tentation, parfois.
Peut-être, mais je crois que ce qui compte, justement, c'est d'inclure d'abord les hommes dans ce mouvement. Et beaucoup l'ont manifesté, y compris dans les communautés artistiques, qui étaient les premières, les plus en lumière, disons, dans ce mouvement. Donc, je crois qu'il faut les inclure. Et il faut se dire, au contraire, il faut réfléchir aux mécanismes sociaux, aux stéréotypes de genre, à ce qui fait dans notre quotidien que les hommes peuvent parfois avoir ces comportements-là. Mais tous ne l'ont pas, il y a des raisons, et des raisons qu'il faut analyser, étudier, sur lesquelles il faut agir.
Ouais. Alors à l'UNESCO, vous vous employez à essayer de changer les choses, justement, le plus tôt possible, et ça passe donc d'abord par l'éducation des filles, et particulièrement en Afrique. Vous étiez d'ailleurs récemment au Sénégal pour défendre cette cause.
Absolument. Alors l'égalité des genres est une priorité qui est transverse, qui est dans tout le mandat de l'UNESCO, c'est pour les sciences, pour la liberté de communication, pour la culture. Mais je crois que là où c'est vraiment fondamental et où ça peut faire véritablement changer les choses, c'est l'éducation. Comment est-ce qu'on travaille à ce que les filles ne soient plus discriminées, les filles et les femmes d'ailleurs, dans l'éducation?
Il y a des millions aujourd'hui de jeunes filles qui sont privées d'accès à l'enseignement.
Oui, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les enfants qui n'iront jamais à l'école, il y a 15 millions de filles et 10 millions de garçons. Quand on regarde la population qui est, pour le dire vite, privée des compétences de base d'alphabétisation, il y a 750 à 800 millions d'adultes et 2/3 sont des femmes. C'est-à-dire 2/3, ce sont des femmes qui n'ont pas eu la chance justement d'avoir accès à l'école. Et en même temps, il faut se réjouir parce qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits sur les 20 dernières années. C'est-à-dire on peut agir, ce n'est pas une fatalité, c'est long, il y a des résistances. Notre premier travail pour justement favoriser l'éducation des filles et des femmes, c'est d'identifier d'abord les chiffres, les situations, mettre le nez sur les problèmes et le partager avec les États, le partager avec les ONG, le partager avec les associations, mesurer et puis agir. Agir sur les programmes, agir sur les méthodes, voir où sont les obstacles. Et ça, c'est très important. Il y a l'éducation scientifique, par exemple. Pourquoi
Mais vous recevez un bon accueil quand vous allez proposer ce genre de programme en Afrique, par exemple?
Oui, tout à fait. Alors, vous parliez
du
Sénégal. Moi, quand j'y étais, et en marge d'une conférence sur l'éducation, où j'ai plaidé pour l'éducation des filles, j'étais, par exemple, à Pikine, juste en dehors, tout près, grosse banlieue de Dakar, où il y a énormément de personnes qui viennent là de tout le pays, qui s'y retrouvent, et beaucoup de femmes qui parlent des langues différentes, qui n'ont pas été à l'école. Et on a un programme avec le Sénégal et avec l'UNESCO pour que ces femmes aient accès à une école de la deuxième chance. Elles vont pour la première fois sur les bancs de l'école. Elles apprennent à lire, à compter dans leur langue, et on leur donne en même temps une formation entrepreneuriale pour qu'elles puissent avoir aussi de quoi maîtriser leur destin aussi du point de vue économique. Donc on est entendu. Mais il y a des résistances, bien sûr. Les choses ne changent pas si vite. Il y a des résistances qui sont parfois liées à des pratiques anciennes. Et c'est ça qu'il faut faire changer. Il y a aussi un rôle très important de faire comprendre à tous que c'est l'intérêt commun que ces femmes aillent à l'école, c'est pas, ou ces jeunes filles à l'école, c'est pas uniquement pour elles, c'est pour la société tout entière. Quand les femmes sont éduquées, il y a moins de violence, il y a moins de grossesses précoces, la démographie est maîtrisée, la santé infantile est meilleure. On a vraiment soit un cercle vertueux, soit au contraire une spirale négative.
Ces résistances, on les observe aussi sur la question des mutilations sexuelles. C'est parfois le poids des traditions qui ont du mal à s'effacer. Aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a encore beaucoup de travail dans ce domaine, non ?
Énormément. Les chiffres sont malheureusement terrifiants. Et puis, c'est, comme vous le dites, c'est des pratiques qui sont ancrées parfois dans des communautés, parfois des femmes elles-mêmes défendent ces pratiques-là. Et là, encore une fois, la seule façon de lutter contre ces violences qui sont terribles, inadmissibles, qui marquent des filles à vie, c'est l'éducation des femmes, l'éducation des hommes aussi, sur ce que c'est sur l'éducation aussi sexuelle. C'est aussi très important, l'éducation sexuelle et reproductive, pour comprendre quelles sont les conséquences aussi de ces mutilations.
Alors, il y a un autre combat que vous voulez mener à l'UNESCO, et qui concerne celui-là peut-être un peu plus la France, mais pas seulement, parce que d'autres pays, si j'ai bien compris, sont associés à la démarche, c'est la visibilité des femmes sur ce qu'on pourrait appeler les espaces numériques. Et vous voulez notamment qu'il y ait, ça c'est très concret, qu'il y ait beaucoup plus de pages consacrées aux femmes sur Wikipédia. Est-ce que ça se décrète, ça ?
Non, parce que Wikipédia, c'est un mouvement contributif.
Ouais.
Mais c'est une illustration, déjà, pour montrer la réalité, aujourd'hui, dans l'espace numérique, qui n'est pas un espace paritaire. On voit que, globalement, si on prend toute population confondue, la fracture numérique se réduit. Mais en revanche, la fracture numérique entre hommes et femmes s'accroît. Il y a moins de femmes connectées que d'hommes. Dans les contributeurs même à Wikipédia, il y a plus d'hommes que de femmes. Et surtout, quand on regarde les notices, les profils qui sont sur Wikipédia, seulement 1 sur 6 est une femme. Ce qui quand même témoigne de ce manque de visibilité de toutes ces femmes remarquables qui ne sont pas dans Wikipédia alors qu'à compétence égale, un homme y serait. Donc ce mouvement que nous lançons donc avec la Fondation Wikipédia, avec la Suède, avec la France, avec d'autres partenaires aussi, c'est pour susciter un mouvement, notamment dans le champ de compétences de l'UNESCO, c'est-à-dire des femmes scientifiques, des femmes dans la culture, des femmes dans les médias, des femmes dans la communauté éducative. Eh bien, on dit à chacun, et j'engage tous les auditeurs à le faire, engagez-vous pour elles, mettez le profil de ces femmes remarquables en ligne sur Wikipédia.
Pour rééquilibrer un peu les choses. Le numérique, Audrey Azoulay, c'est aussi un monde dans lequel les femmes sont victimes de beaucoup de violences. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Que peut faire l'UNESCO contre ce phénomène qui peut être dévastateur et peut-être en particulier chez les jeunes filles, les jeunes femmes au collège, au lycée, parfois d'ailleurs même plus tôt, notamment à travers les réseaux sociaux qui sont accessibles immédiatement maintenant depuis tous les téléphones portables.
Peut-être pour vous répondre déjà plus généralement, toute cette révolution numérique que nous vivons, c'est une révolution qui interroge et qui bouleverse les rapports sociaux, qui bouleverse l'interaction entre les gens. Et ça, je crois qu'on a besoin aussi d'y réfléchir et de se poser de nouvelles règles sur qu'est-ce qu'on veut comme société dans ce monde numérique-là. Il y a des choses magnifiques, des innovations qui viennent de ce monde. Il y a aussi des choses qui sont moins reluisantes dans les rapports des enfants aux écrans, par exemple, et c'est quelque chose qu'on voit dans l'éducation. Et il y a aussi tout ce qui se passe comme violence sur les réseaux sociaux, qu'on voit à l'école avec le harcèlement qui peut être du cyberharcèlement et qui s'exerce plus souvent à l'égard des jeunes filles, qui une des formes de violence scolaire et une des choses qui font que les filles parfois s'éloignent de l'école.
Merci Audrey Azoulay. Bonne journée.
Merci à vous.